de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'heure suivante, nous allons présenter magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutez maintenant le journal et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez maintenant les nouvelles d'aujourd'hui. Vous allez écouter quelques informations importantes, comme le ministre de la Défense estime que la concurrence géopolitique et géoéconomique menace d'instabilité. L'Indonésie invite les investisseurs sud-coréens de première classe à investir en Indonésie. L'Indonésie espère que la Nouvelle-Zélande renforcera sa coopération en matière d'emploi. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes avec moi, Oudry. Le ministre de la Défense estime que la concurrence géopolitique et géoéconomique menace l'instabilité. Le ministre général de la Défense de la TNI, Riamizar Riakudu, a indiqué que la concurrence géopolitique et géoéconomique entre les superpuissances pourrait menacer l'instabilité. C'est ce qu'a déclaré Riamizar Riakudu lors de l'ouverture du Forum géopolitique de Jakarta 3 2019 sur le thème du désarroi mondial vers une nouvelle normalité, organisé jeudi à Jakarta par l'Institut national de la résilience, l'EMHANAS. Selon lui, l'augmentation de la puissance de la Chine en tant que nouvelle superpuissance avec le Conseil de la Belt Road Initiative comme l'exemple. Au milieu de ce développement, l'Indo-Pacifique doit émerger en tant que nouveau centre de gravité mondiale. Il doit se développer en tant que paramètre et former un nouvel ordre significatif pour la communauté mondiale. Ça a été dit que la présence de pays à puissance intermédiaire comme l'Indonésie et les membres de l'ASEAN sont également très pertinents et importants. L'Indonésie invite les investisseurs sud-coréens de première classe à investir en Indonésie. Le gouvernement indonésien invite à un investissement de première classe ou à un investissement technologiquement avancé de la Corée du Sud pour investir en Indonésie. Cela a été dit par le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, dans un communiqué de presse du Conseil de coordination des investissements BKPM à Jakarta mercredi. Dans le forum commercial Invest Indonesia Seoul, en Corée du Sud, Luhut a expliqué que l'investissement de première classe était l'investissement reposant sur une technologie avancée, des processus de transfert des technologies, une valeur ajoutée des produits fabriqués et une amélioration de la qualité des ressources humaines indonésiennes. L'UT a dit plusieurs opportunités d'investissement dans le secteur national en aval à forte valeur ajoutée, entre autres la transportation des minéraux de nickel, de bauxite et de manganèse. Les relations commerciales entre la Corée du Sud et l'Indonésie continuent de devenir un point positif dans l'économie régionale et mondiale. L'ambassadeur d'Indonésie en Corée du Sud, Umar Hadi, a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, la Corée du Sud était devenue l'une des principales sources d'investissement direct étranger en Indonésie. L'Indonésie espère que la Nouvelle-Zélande renforcera sa coopération en matière d'emploi. L'Indonésie espère que la Nouvelle-Zélande pourra renforcer la coopération dans le secteur de l'emploi. Le ministre de la main-d'œuvre, Hanif Dakiri, a dit récemment que jusqu'à présent, la Nouvelle-Zélande a offert aux étudiants indonésiens de nombreuses possibilités d'étudier dans le pays. Chaque année, ce pays ouvre 200 bourses d'études aux étudiants indonésiens. Mais selon lui, à l'heure actuelle, les bourses d'études pour étudiants ne suffisent pas. Le gouvernement souhaite une coopération liée au développement des compétences des travailleurs. Outre les investissements dans les ressources humaines, les deux parties ont également discuté des possibilités de placement de travailleurs indonésiens en Nouvelle-Zélande. Le ministre Hanif a également souhaité que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande puisse immédiatement envoyer une équipe technique pour discuter de la continuation de l'opportunité de coopération. L'Indonésie a organisé un atelier sur l'entrepreneuriat dans le sud-est de l'Europe. L'Indonésie a organisé un atelier sur l'entrepreneuriat à plus de 20 hommes d'affaires de pays du sud-est de l'Europe ou des Balkans sous le nom de l'Atelier international sur l'entrepreneuriat dans les pays du sud-est, qui s'est tenu à Belgrade, Serbie, du 24 au 27 septembre. L'atelier a été ouvert par la ministre adjointe de la coopération bilatérale du ministère des Affaires étrangères de Serbie, Tatiana Konik. Il a souligné que cette activité a de l'élan car la Serbie gère actuellement un programme d'entreprise de 10 ans et pour renforcer les relations bilatérales de 65 ans entre l'Indonésie et la Serbie. M. Chandrawijaya Yuda, l'ambassadeur d'Indonésie à Belgrade, a déclaré dans ses remarques que cette activité était un des efforts de l'Indonésie pour renforcer la coopération dans le cadre de la coopération sud-est avec les pays de la région de l'Europe du sud-est. Le vice-président indonésien dirige le sommet sur les objectifs de développement durable à New York. Les 10 prochaines années doivent être adressées à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et ces efforts doivent être commencés dès maintenant. C'est ce qu'a souligné le vice-président Youssouf Kala lors de diriger le sommet sur les objectifs de développement durable au quartier général de l'ONU à New York, mercredi, comme rapportait la page du ministre des Affaires étrangères. À cette occasion, le vice-président Youssouf Kala a également partagé des priorités de développement national fondées sur la vision de l'Indonésie 2045, qui se concentre sur 4 piliers principaux, tels que le développement des ressources humaines, la croissance économique durable, le développement équitable et le renforcement de la gouvernance. Youssouf Kala a eu l'honneur de diriger le dialogue des dirigeants sur 2030 vision conjointement avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Malte. Cette séance de dialogue est stratégique car elle discute de la vision des chefs d'État et de gouvernement en ce qui concerne l'accélération des relations des 10 dernières années vers 2030. Les usines de Batam exportent du fer vers Singapour et la Malaisie. Les aciéries chinoises opérant à Batam dans les îles Riau exporteront leurs produits en fer vers Singapour et la Malaisie. Comme l'a écrit Antara, directeur de PT Sampurna Wahyu Metalindo, Keri Wahyudi Gautama a expliqué mercredi à Batam que la production de PT Perfect Wahyu Metalindo atteint 15 000 tonnes par mois pour répondre aux besoins de Batam et d'autres régions et également exporter vers Singapour et la Malaisie. Il a dit que la demande moyenne en fer des citoyens de Batam est de 7 000 tonnes par mois. Il y a donc une production excédentaire d'environ 8 000 tonnes par mois qui peut être exportée vers d'autres régions et vers les pays voisins. Bon, chers auditeurs, c'était les nouvelles d'aujourd'hui.
Maka pernah berhenti patuh dan setia berjiwa Pancasila kita setia ada sekerjanya ampera tujuan utama untuk pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti patuh yang setia berjiwa Pancasila kita setia landas sekerjanya ampera tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi sekali di udara tetap di udara.
Serita ku basi dong kalau komentar yang pour le titre le président Donald Trump va-t-il échapper à la destitution. Le président des États-Unis Donald Trump fait face à un processus de destitution initié par le Parti démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a révélé il y a 10 jours que pas moins de 170 des 235 membres de la Chambre des représentants ont soutenu la mise en accusation de Trump qui aurait abusé de son autorité en tant que chef de l'État pour dissuader le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur la présumée corruption de son fils, Hunter Biden. Ensuite, le président Trump a admis avoir eu une conversation avec le président ukrainien il y a quelque temps et avoir discuté de l'affaire Biden par téléphone. Cependant, Trump a nié avoir fait pression sur Zelensky pour qu'il accepte à sa demande en menaçant de retenir l'aide au gouvernement ukrainien, affirmant que cela avait été fait pour que les pays européens aident plus activement. Cela fait-il partie de la dynamique politique des États-Unis avant les élections qui auront lieu en novembre 2020? Trump réussira-t-il à échapper au piège de la destitution cette fois-ci? À l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis, les nuances de concurrence entre les candidats à la présidence du Parti démocrate et du Parti républicain se sont de plus en plus réchauffées. Trump, qui a décidé de répandre son mandat aux élections américaines l'année prochaine, avait déjà commencé à se cacher pour faire face à son adversaire le plus redoutable du Parti démocrate, Joe Biden, vice-président des deux mandats de l'administration de Barack Obama. Il semble que Trump recherchait la faiblesse de Joe Biden par les mains de l'Ukraine qui a en fait conduit le processus de destitution contre lui. Les efforts de destitution contre Trump ne se limitent pas à cette fois. En 2017, peu après avoir été assermenté à la présidence, Trump a été mis en accusation à la suite de l'enquête post-enquête de l'ancien conseiller spécial Robert Mueller sur l'intervention de la Russie dans l'élection présidentielle 2016. Trump a été accusé d'entrave à la justice. Cependant, Trump a réussi à s'échapper à ce moment-là. En dehors de cela, l'évaluation publique américaine de la performance du président Trump n'est pas très bonne non plus. Un sondage publié vendredi par The Post et ABC indique que 60% des électeurs n'apprécient pas les performances du président Trump. Enfin, en 2019 et au début 2020, le président Donald Trump s'occupera du processus de destitution et de la diminution de l'appui du public à son égard, ce qui affectera son éligibilité en 2020. Est-il possible que le président Donald Trump ait échappé au piège de la destitution cette fois-ci? Attendons de voir ce qui va se passer ensuite. C'est Rita, c'était le commentaire pour ce soir.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 27 septembre 1945, la journée des postes et des télécommunications. La journée des postes et des télécommunications est débutée avec la prise de pouvoir du Bureau de poste télégraphique et téléphonique, ou PTT, de l'autorité gouvernementale japonaise pour les jeunes indonésiens, qui sont les membres de la force de la jeunesse des postes, télégraphes et téléphones à Bandung, Java occidentale, le 27 septembre 1945. La prise de pouvoir de PTT à partir du gouvernement colonial japonais a été effectuée par la force de la jeunesse des PTT après 3 jours de négociations ont échoué. La force de la jeunesse des postes, télégraphes et téléphones, dirigée par M. Sutoko, ont décidé de s'emparer l'office des PTT. La prise de contrôle du 27 septembre 1945 a été célébrée sous le nom de la Journée des postes et des télécommunications. Le 27 septembre 1980, la Journée mondiale du tourisme. Depuis 1980, l'Organisation mondiale du tourisme a célébré la Journée mondiale du tourisme tous les 27 septembre. La date a été choisie parce que le 27 septembre 1970, les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme a été conçu. La conception de ces statuts sont considérés comme une référence pour le tourisme mondial. La commémoration de la Journée mondiale du tourisme a pour objectif de sensibiliser la communauté internationale au rôle du tourisme et de démontrer l'impact du tourisme sur les valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques du monde. Le 27 septembre 1988, la Ligue nationale pour la démocratie est créée au Myanmar. La Ligue nationale pour la démocratie, ou LND, est le parti politique du Myanmar fondé le 27 septembre 2018, dirigé par Aung San Suu Kyi comme secrétaire général. Aux élections générales de 1990, le parti a remporté 392 des 492 sièges existants, mais la junte militaire au pouvoir, le Conseil pour la restauration de la loi et de l'ordre public, maintenant appelé le Conseil d'État pour la paix et le développement, n'a pas autorisé le parti à former un gouvernement. En 2010, le parti de la Ligue nationale pour la démocratie a été déclaré illégal et a dû être dissous. Mais un an plus tard, LND a été autorisé à participer aux élections générales de 2012 et 2015. La Ligue nationale pour la démocratie a reçu une vote majoritaire qui a ouvert la voie au premier gouvernement civil du pays. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
terjalin dengan indah untuk menguraikan maksud hatiku, beranikan diri untuk memulainya. Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh, malunya hati ini bila ku ingat saat kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, bulan hanya dirimu yang mengertikan segalanya. Oh, bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Bibirku rasa berat. Malam pun kian berlalu, kita saling terpaku. Diam seribu bahasa, hilang semua kata terangkatkan. Oh, malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh, bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, bulan hanya diri yang menyaksikan segala kata. Oh, bulan tolonglah daku katakan padanya.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Et maintenant, nous allons vous présenter Mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre, les exportations nationales de batik atteignent 18 millions de dollars américains. Dans le cadre de la Journée nationale du batik, le 2 octobre, et des 10 ans de reconnaissance du batik par l'UNESCO, le ministère de l'Industrie a organisé une exposition sur le batik du 24 au 27 septembre 2019 à Jakarta. L'exposition a été participée par 44 artisans des petites et moyennes industries de la Fondation indonésienne du batik. Cette activité se poursuivra avec le pic d'événements organisé à Solo le 2 octobre 2019. Gati Wibawaningsih, directrice générale des petites, moyennes et des belles industries du ministère de l'Industrie lors de l'inauguration d'exposition batik sur le thème « Fabriquer en batik pour la nation » à Jakarta a déclaré mardi que l'industrie du batik était l'un des secteurs qui ont ouvert beaucoup d'emplois. Le secteur qui est dominé par les petites et moyennes industries est réparti dans 51 centres en Indonésie avec 47 000 unités d'affaires et a absorbé jusqu'à 200 000 personnes. En outre, l'industrie du batik, qui fait partie du secteur du textile et de la mode, est également l'un des principaux secteurs dans la mise en œuvre de la feuille de route Make in Indonesia 4.0. Il a expliqué que le secteur du batik avait reçu une priorité de développement en raison de leur grande contribution à l'augmentation des échanges, le montant des investissements, l'impact sur les autres secteurs et la vitesse de pénétration du marché. L'industrie du batik indonésien est en mesure d'apporter une contribution importante à l'économie nationale et ses produits ont attiré les marchés mondiaux. Le ministère de l'Industrie a noté que la valeur des exportations de l'industrie nationale du batik au premier semestre 2019 s'élevait à environ 18 millions de dollars américains. Les principaux pays de destination des produits expédiés sont le Japon, les États-Unis et l'Europe. Selon Mme Gati, le batik indonésien dispose d'un avantage comparatif et concurrentiel sur le marché international. Le 2 octobre 2009, l'UNESCO a mis en place le batik indonésien comme liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Selon Gati, cette reconnaissance a des conséquences pour le gouvernement et la communauté de préserver et de développer en permanence les produits de batik. Gati a ajouté qu'en mai 2019, la diplomatie du batik avait eu lieu au siège de l'ONU, à savoir le choix du batik comme code vestimentaire lors de la session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce moment était une fierté pour l'Indonésie, car la plupart des membres présents portaient un batik avec une variété de nuances, de couleurs et de matériaux de batik originaires de l'Indonésie. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Thank you.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter une cuisine de la province de Nusa Tenggara West, la soupe de bebalung. Bebalung est la cuisine typique de Lombok qui existe depuis longtemps comme un patrimoine culinaire de génération en génération. En langue de Sasak, bebalung signifie puissance. Les populations locales estiment qu'après avoir mangé bebalung, on sera plus puissant et augmenter la vitalité. Généralement, bebalung est un menu obligatoire dans la fête des résidents locaux, bien qu'on appelle la soupe de côte de bœuf, mais vous n'êtes pas toujours servi les os dans chaque bol, mais il y a les morceaux de viande tendre. La soupe de bebalung est mangée avec du riz blanc, la sauce tomate typique de Lombok, et n'oubliez pas de parsemer d'oignons frites. La cuisine est très délicieuse, mangée lorsqu'il est encore chaud. Bebalung précédemment est le plat qui a été servi lorsque la communauté de Lombok a organisé une célébration, mais maintenant il est devenu l'un des menus dans un restaurant. Il est bien aimé non seulement par les habitants locaux, mais aussi par les touristes étrangers qui visitent Lombok. Lorsque vous mangez et habituellement accompagné avec du thé chaud, et le prix par portion environ 25 000 rupiah. Bebalung peut être fait à partir des côtes de vase ou de bœuf mélangé avec le mélange d'épices tels que l'ail, l'échalote, le galanga, le curcuma, le gingembre, le sel et le vinaigre. Le mélange d'épices comme celui-ci par la communauté de Sasak appelé rajang. C'est très facile à faire cette soupe. Les nervures ou la queue de bœuf sont coupées selon les gouttes. Après être nettoyées et bouillies jusqu'à ce que cuit et la viande soit tendre, mélangez avec les épices qui ont été écrasées et sautées. Ces ingrédients et la matière première de bebalung sont bouillis à nouveau environ 30 minutes pour permettre à la marinade et s'infiltrer dans la viande. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Chers amis, pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
« Chers auditeurs, rencontrons-nous dans le programme L'Indonésie en couleur. Pour l'édition de ce soir, nous vous informons l'innovation de la délégation indonésienne a remporté le prix à Istanbul. La délégation indonésienne, par l'intermédiaire de l'équipe Pertamina Innovation, a remporté de nombreux prix à la Foire internationale des inventions à Istanbul, au ICIF 2019, qui se tiendra à Istanbul, en Turquie, du 17 au 22 septembre 2019. Les prix remportés sont deux médailles d'or, une médaille d'argent, le premier prix dans la catégorie des meilleures découvertes et des prix spéciaux de diverses associations mondiales de l'innovation. Environ 300 œuvres d'innovation et 25 pays, entre autres la Russie, le Portugal, la Malaisie, la Roumanie, le Liban, l'Iran, l'Indonésie, la Pologne, la Chine, le Maroc, l'Angleterre et d'autres États fédéraux européens ont assisté à cet événement. ICIF Turquie 2019 sera le plus grand événement d'exposition aéronautique de cette année. Le président de la délégation de l'Association indonésienne pour la promotion de l'innovation, INOPA, Winda, a déclaré dans une déclaration écrite reçue à Jakarta lundi que l'événement est très approprié pour les innovateurs indonésiens car cet événement accueille toujours environ 6 000 à 10 000 visiteurs chaque jour. Cela offre aux innovateurs indonésiens une grande occasion de transférer des connaissances ou même de faire venir des investisseurs. Parmi les visiteurs intéressés par les produits d'innovation présentés par l'équipe d'innovation de Pertamina et d'autres équipes indonésiennes. Un total de 4 innovations apportées par Pertamina Innovation, entre autres Geochemical Adsorbent Survey Tools Technology, PC Prof Perta Gaster, à savoir des outils innovants de levée géochimique pour cartographier les perspectives géothermiques, y compris l'énergie géothermique cachée. L'équipe d'innovation de Pertamina a également défendu avec succès le prix de la meilleure invention internationale deux années consécutives. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt. Semua nada beranjak.
Chers amis, nous vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers auditeurs, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans le magazine Musica. Cette fois, je vous présente une chanson de la région de Sumatra de l'Ouest, intitulé Ayam dan Lape. Cette chanson a été composée par Abdul Hamid. Les paroles de cette chanson sont des pantunes de vieux poèmes. Les paroles de la chanson Ayam dan Lape parlent de quelqu'un qui a perdu quelque chose, symbolisé par ayam ou en français le coq. Citant le site culturel indonésien, la Direction générale de la culture de l'Indonésie, le coq dans l'ancienne tradition de Minang est un produit de luxe. Seules certaines personnes peuvent l'avoir. La chanson régionale intitulée Ayam dan Lape a été réarrangée par la musicienne régionale, s'appelle Shera Fanesha, dont le rythme est du jazz. Bon, chers auditeurs, voici Shera Fanesha, dont le titre est Ayam dan Lape.
Babelo jalan kayu jati di maati indah karusu ayam dan lape ayam ayam dan lape mandaki jalan pandai sike basimpang jalan kabiaro di maati indah kemau pe awata kicha ai 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 am de pe siku achapa siku achape sai kwa taba sai kwa lape tabala juo nan karimbo oh Jalan urang baso dua taman wanti o saban tak oi tangan aju ai ai am jepe
of Indonesia.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.